RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
RMC, face aux grandes gueules.
ODD, je la passe à tête, taille la pécou, la bizarre, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV.
ODD, c'est PNL, l'Empire, sous-titré Enquête au cœur du rap français. C'est un livre d'enquête au long cours de Simon Piel, Paul Dutchman et Johan Tilwin qui sont avec nous aujourd'hui. C'est aux éditions Flammarion.
Alors, on en a deux pour le prix de trois. On a Paul et Johan qui sont avec nous. On ne se rend pas compte, si on n'a pas lu votre livre, de la puissance et du pouvoir du rap aujourd'hui. C'est dominant dans le monde de la musique, mais à ce point-là, c'est quand même assez impressionnant.
Oui, tout à fait, c'est le point de départ du livre. Hein. La musique, le rap, aujourd'hui, c'est plus des deux tiers presque des ventes d'albums chaque année. Et ce pouvoir n'avait jamais été investigué en un point de vue économique et financier. C'était le devoir de le faire, en tout cas pour nous, journalistes, de raconter ce pouvoir et toutes ces facettes du pouvoir, les plus sombres comme évidemment les plus brillantes.
Et ça génère des millions et des millions d'euros, quoi. Donc les convoitises.
C'est des millions d'euros. Les contrats aujourd'hui peuvent s'élever à 20 millions d'euros pour deux albums. Hein. C'est des sommes qui ont explosé en 3-4 ans. Et donc évidemment que ça attise la convoitise d'acteurs éventuellement issus de l'économie illégale.
Surtout que les artistes sont souvent jeunes, pas forcément expérimentés et pas très bien protégés aux mises en garde, quoi, en fait.
Oui, en fait, aujourd'hui, de par les changements qu'il y a eu dans l'industrie, en fait, un rappeur, c'est aussi un entrepreneur, en fait. C'est un homme d'affaires qui a sa propre structure, sa propre entreprise. Et effectivement, ils apprennent sur le tard, ils n'ont pas été formés pour cela. Et parfois, on s'est rendu compte, au cours de cette enquête, qu'ils sont parfois rattrapés par certains membres de leur entourage, avec lesquels ils doivent composer. Et certains sont prisonniers de formes de loyauté un peu piégeuses.
C'est quoi le chiffre d'affaires du rap en France?
Alors aujourd'hui, sur le phonographique, c'est à peu près 1 milliard tout confondu. Donc on peut imaginer que le rap, juste pour l'aspect phonographique, c'est 600-700 millions d'euros, sans compter le tour, sans compter le merchandising. Donc c'est des sommes qui sont presque en milliards, je pense, si on compte tout.
Alors bien sûr, il y a aussi cette face cachée que vous décrivez, et notamment des liens sulfureux entre certains rappeurs ou certains entourages de rappeurs et le grand banditisme.
Oui, c'est une réalité. Alors des fois, c'est une emprise. On l'a vu notamment de façon assez dramatique avec le cas SCH, qui était victime d'extorsion d'un groupe criminel marseillais bien connu. Et puis des fois, ce sont des anciens amis, des producteurs du début. C'est le cas notamment de Jul, qui a travaillé avec un label bien ancré dans les quartiers nord, avec qui ça se passait bien au début. Puis quand le partage...
Liga One, c'est ça. Ouais.
Liga One, exactement. Ouais. Dont le manager Jul, Karim Tir, qui est son très manager, avec qui la relation était une relation très sincère, qui marchait bien, se fait assassiner. Puis vient dans un second temps une relation beaucoup plus froide avec les autres frères, qui va jusqu'à une scission assez violente, puisque Jul doit se cacher pendant plusieurs semaines.
Ah bah il doit même être exfiltré ensuite.
Ouais. Il est exfiltré exactement de Marseille pour une maison en périphérie où il enregistre dans une petite cabane cachée de tous son album My World.
Alors, petite question de nos petits camarades, notamment, et Bruno. Tu as discuté, Bruno.
Moi, avec Fatima, qui fait l'émission ici de temps en temps, avec Bouna. On a eu peur au début avant de lire votre bouquin en se disant ils vont parler de nos idoles en fait. Moi on aime le rap français, mais alors, celui qu'on appelle conscient. Moi j'ai eu peur de voir Medine, Kery James, NTM. Et quand vous commencez votre livre en disant bah avant on va parler de la nouvelle génération, j'ai ouf tant mieux déjà. Bon, vous parlez un peu de Booba.
Et un boomer. Hein.
Et vous parlez un peu de Booba. Bon voilà. Moi ce qui m'impressionne le plus c'est les chiffres. C'est les chiffres et surtout moi ce qui m'impressionne c'est que le fait que des gamins de quartier ont tordu le bras aux majors, alors que les majors, à l'époque, tordaient le bras plutôt à leurs artistes. Quand vous expliquez au début du bouquin que NTM, c'est 8 à 12% de royalties qui touchaient, alors que là, les gamins, maintenant, ils veulent pas de royalties, ils prennent tout, et puis ils disent à la maison de 10, c'est toi qui prendras les restes. Moi, je trouve ça exceptionnel. Et en fait, on se dit, effectivement, alors, en plus, beaucoup de gamins viennent de quartiers un peu difficiles, avec des amis qui ont peut-être des parcours plus violents que leurs. Mais c'est surtout qu'en fait, on se retrouve avec une industrie du disque qui a plié devant ces gens-là. Et moi, je trouve ça vraiment... Enfin, bon, malheureusement, il y a du banditisme à côté, mais je trouve ça bien qu'en fait, les maisons de disques, elles arrêtent de rendre leur
le pouvoir est désormais du côté des artistes.
Ouais, en fait, il y a eu, et ça, c'est vrai que c'est assez fabuleux que ça vienne, comme vous l'avez dit, quoi, de gamins de quartier qui n'ont pas forcément eu une vie forcément facile. Et en fait, ils ont réussi à inverser le rapport de force avec les grandes maisons de disques qui sont des multinationales. Ah, et aujourd'hui, à percevoir 80% des revenus de leur musique, alors qu'autrefois, c'était 20%. Et ça, c'est quand même un coup d'éclat qui d'ailleurs, cet inversement de rapport de force profite à d'autres stars de la pop musique. Par exemple, Angel, pour négocier ses contrats, s'inspire de PNL, en fait, et de Jul.
C'est clair que...
Donc, c'est quelque chose qui est assez, qui nous a beaucoup marqué.
Et comme, dans ce cas-là, ils sont conseillés par qui? Ou c'est intuitif, Jul, il avait le sens des affaires comme ça.
En fait, c'est une génération qui est déjà très indépendante et qui est née avec ce sens des affaires et qui a envie de. En fait, c'est des conquérants quelque part. Il y a un petit côté, c'est quasiment des personnages un peu balzaciens. Ils sont là pour réussir et pour fracasser les portes. On leur a pas ouvert les portes. La France leur a pas forcément tendu la main. Donc ils y vont par eux-mêmes et ils y vont avec leur talent, avec leur musique. Et quelque part leur soif de réussir, en fait. Et ça, c'est assez fascinant de voir ça. Et dans notre enquête, dans notre livre, on raconte méthodiquement, par l'investigation, comment ils ont réussi à inverser la tendance avec des multinationales.
Qu'est-ce qu'ils font de leur argent?
Alors ça, pour le coup, il y a autant d'exemples que de rappeurs. Il y en a qui vont évidemment, comme toute personne qui touche de l'argent, le diversifier. Beaucoup sont des entrepreneurs, ça veut dire qu'ils sont autrement, enfin, ils sont producteurs, ils sont tourneurs, des fois ils sont éditeurs, des fois ils ont quasiment tous leur marque de vêtements, hein, Jul.
Mais c'est ça, c'est ce qui change aussi avec, par exemple, des artistes de rock ou de variété qui n'étaient pas forcément les entrepreneurs. D'ailleurs, certains se faisaient avoir, c'était les artistes, c'était là pour créer et pas forcément pour gérer précisément des placements, des...
Complètement, si vous prenez Jul, sa marque d'or et de platine, c'est un carton à Marseille.
Jul, il pourrait être patron du MEDEF, quoi.
Ah bah, en tout cas, c'est un entrepreneur assez incroyable.
Et sans argent public, en plus.
PNL aussi, c'est fascinant. Ouais, le modèle PNL, c'est vraiment une conquête.
PNL, c'est ça qui est.
Et c'est vraiment des vrais businessmen. Ouais.
On a une idée de ce que représente leur fortune ou pas personnelle? Est-ce qu'on le sait?
Jul, par exemple.
Ils sont très discrets là-dessus.
C'est en dizaines de millions d'euros, en fait. C'est en dizaines de millions d'euros, des placements immobiliers, etc.
Est-ce que c'est toujours des placements légaux ou est-ce que.
Bien sûr, c'est totalement.
Parce que vous parlez quand même de filiales offshore, notamment aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï.
Alors, oui.
Bon, comme beaucoup de gens fortunés, hein, les rappeurs n'échappent pas évidemment à la tentation pour certains
d'optimiser, comme on dit.
D'optimiser, mais ça s'inscrit dans la grande tradition française des stars de la variété, hein, qui a commencé bien avant les rappeurs pour le coup.
On allait en Suisse à l'époque.
En Suisse.
Maintenant, on va à Dubaï.
Dubaï, c'est vrai qu'il y a les impôts sur société est plutôt avantageux.
Ouais. Oui, mais quand on va à Dubaï, on se rend compte qu'il n'y a pas que du placement fiscal. Il y a des personnes peu recommandables aussi qui sont à Dubaï, quoi. D'après, quand on lit votre livre autour des rappeurs aussi, ouais.
Oui, Dubaï, c'est un lieu qui attire en fait une partie des nouveaux riches de ce monde, en fait. Donc, effectivement, on va y trouver des acteurs de l'illégal, des acteurs de la musique, des hommes d'affaires, des courtiers, etc. Et Dubaï, c'est aussi pour les rappeurs français une fenêtre vers ce nouveau monde quelque part. Et ça, c'est très important au cours de notre enquête. Beaucoup de rappeurs ont une soif d'ailleurs, en fait. Un peu comme si la France, qui, encore une fois, comme vous l'avez dit, n'a pas toujours été tendre avec ses enfants des quartiers populaires, eh ben, eux vont voir ailleurs. Alors, certains vont en Afrique, certains vont à Dubaï. Nous, cette enquête, on s'y attendait absolument pas en démarrant un travail d'investigation sur le rap français. Ça nous a amené dans des palais présidentiels à Kinshasa, dans des cours d'émir de pays du Golfe, chez LVMH, chez Rodolphe Saadé qui s'entretient avec Jul avant de racheter la Provence, à Marseille, etc. Donc à la fois dans des bureaux de grands capitaines d'industrie, comme dans des bureaux de grandes maisons d'ultraluxe, par exemple, ou de chefs de l'État.
Mais c'est vrai que la grande revanche de ces jeunes-là, c'est que c'est Jul qui prend la flamme quand elle arrive en France, en fait. Ouais. Et que là, les gens s'attendaient à Zidane et que c'est ce gamin qui est incroyable. Moi, c'est pas ma cam. Moi, je préfère d'autres rappeurs, mais lui, franchement, il y a deux, trois morceaux que je trouve vraiment bons. Et, alors qu'il en produit peut-être 50 par jour.
Moi, je préfère d'autres rappeurs aussi. De Sugar Hill Gang. Comment ça se disait, ça?
Voilà, déjà, il préfère un groupe qu'il ne sait pas dire.
Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Ouais. Il y a 45 ans, c'est eux qui ont lancé le rap. Et il faut
45
se souvenir.
Ans plus que ça, mais c'est pas grave.
Voilà. Emmanuel mène la musique.
Ça c'est un classique, je l'ai dans ma playlist de footing.
On s'attendait pas. Après le footing avec Sugar
Hill Gang. De manière plus sérieuse, vous dites des choses incroyables. Vous dites par exemple que la BPI, qui est une entreprise qui emmerde couramment les petits patrons, j'ai subi beaucoup de choses de la BPI qui est tatillonne.
La Banque publique d'investissement.
Voilà, soutient le rap contrôlé par des figures du grand banditisme. Magnifique.
Alors, c'est ce qu'on raconte dans le livre. Oui. On raconte que la Banque publique d'investissement a octroyé des prêts et beaucoup de fonds, donc plus de 25 millions d'euros de fonds, à une société de distribution qui est quasiment comme une major, qui s'appelle Believe. Et cette société, Believe, a noué des contrats et a effectué des flux financiers vers des sociétés contrôlées par des figures du narcotrafic qui sont recherchées par le ministère de l'Intérieur et par les autorités françaises, oui, tout simplement.
Oui, et plus fondamentalement, vous dites, je vous cite, « Pour certains rappeurs, le succès peut désormais être une malédiction parce qu'il attire des groupes criminels qui vont faire pression sur eux pour obtenir une part du gâteau. »
Oui, le mot « malédiction », il est d'ailleurs dit par SCH lors de son entretien avec la police. Il évoque la malédiction du succès. C'est un terme qui est beaucoup revenu au cours de l'enquête. On pensait pas à ce point-là, pour certains rappeurs, l'anxiété que c'était de réussir et finalement d'avoir des personnalités autour d'eux qui vont tenter de prélever une partie de ce succès.
Pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, vous dites qu'il y a notamment la DZ Mafia, le fameux groupe de narcotrafiquants qui sévit dans le sud de la France, mais qui maintenant est en train de gangréner aussi des villes moyennes. On parlait de Poitiers ou d'autres. Et le DZ Mafia essaie de récupérer une partie des revenus, mais comment alors?
Alors là, sur le cas des CH, c'était une tentative d'extorsion de fonds assez classique, c'est-à-dire de fonds, d'échange de fonds en échange d'une présumée sécurité. C'est comme ça, en tout cas, que les enquêteurs le racontent.
Donne-moi de l'argent et je te protège, sinon.
C'est ça, ce qui est assez classique. Après, il y a aussi une perspective longue à voir. Nous, on s'est aussi plongé dans une littérature plus ancienne, notamment du jazz des années 20, des années 30, où la mafia avait fait main basse sur la scène
Sinatra,
jazz, dans les maisons disques. On parlait de Sinatra, évidemment.
Le rapport entre Sinatra et la mafia.
Et donc, c'est vrai que c'est pas une exception, le rap. Il y a de l'argent, il y a de la convoitise, et le rap n'est pas une exception, finalement.
Joël Dagosseri.
Je suis très contente que vous disiez ça, parce que j'allais y venir. Vous avez dépeint le rap comme si c'était le genre musical qui faisait exception aux autres, c'est-à-dire qui allait regrouper de la drogue, aller se balader dans les palais. Moi, je suis sûre que si vous suivez, on va prendre une grosse star qui n'est plus là, mais Michael Jackson, je suis sûre que vous allez atterrir dans plein de palais africains ou saoudiens, ou etc.
Dans les écoles maternelles, je crois.
Non, arrête, s'il te plaît, je ne te permets pas.
Malheureusement.
Donc je suis sûre que si on suit les grosses stars d'aujourd'hui, des Madonna par exemple, ou des Rolling Stones, on va atterrir, on va trouver de la drogue, et on va trouver aussi des relations peut-être un peu bizarres avec des dictateurs, pourquoi pas, j'en suis certaine. Alors déjà, première chose, c'est que le livre se lit très bien. Ah ouais. Ceux qui veulent l'acheter, il se lit très bien. Mais j'ai envie de vous dire, si je regarde par exemple la série Validée, qui est une série de Franck Gastambide, qui parle aussi du milieu du rap, en fait, clairement, on va y retrouver peu ou prou ce que vous racontez dans ce livre. J'aurais vraiment préféré, et je vais vous demander en fait quel angle, pourquoi est-ce que vous avez fait ce livre, que vous l'intitulez par exemple « Les businessmen ». Parce qu'effectivement, je suis comme Bruno, quand j'ai lu ça, quand j'ai vu des petits gars du 95, du 93, ou même de Marseille, des quartiers populaires, gagner autant d'argent grâce à leur art, parce qu'on n'en parle pas assez, en fait, dans ce livre, vous n'en parlez pas assez, grâce à un art qu'ils ont réussi à imposer contre tout le monde, qui était décrié, qui passait même pas au pouvoir de la musique. Il a fallu des années pour que cet art s'impose et que ces petits jeunes, en fait, qui partis de rien, puissent gagner de telles sommes. Donc c'est 40 années de travail, le rap. Là, vous êtes parti de 2015, je crois, mais c'est 40 années, puisque moi j'ai 47 ans et j'ai grandi avec le rap et j'ai grandi en 93. Donc moi, ce que je vais vous reprocher, et peut-être c'est la question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi un angle aussi sulfureux pour parler du rap, même si, effectivement, comme on l'a déjà dit, il y a d'autres genres musicaux qui rassemblent à peu près toutes les caractéristiques. Et si on va aller sur le côté mafia, moi, j'aurais préféré que vous parliez, en fait, des mafias qui étaient les maisons de disques. C'était des réelles mafias.
C'est quand même pas la même chose. Enfin, tu peux pas faire la comparaison entre une mafia
et une
majeure.
Quand on parle d'artistes qui se sont battus pour récupérer leurs droits.
Oui, d'accord.
On parle, par exemple, Florent Pagny. Aux États-Unis, on a eu Taylor Swift qui a dû se battre pour récupérer ses albums et qui a dû les réenregistrer.
Il ne menace pas de mort.
Oui, mais attendez. Il faut aussi comprendre pourquoi ce rapport de force est autant inversé. C'est que les artistes étaient tenus et étaient carrément pillés de tous leurs droits. Donc, moi, j'aurais préféré que vous parliez de ces géniaux businessmen.
C'est ce qu'ils font.
Alors,
c'est pas clairement décrit comme ça dans le livre.
Là où vous avez entièrement raison, c'est qu'il y a les flux. On parle beaucoup de narco-banditisme, etc. Et parce que c'est les journalistes et dans la promo, c'est quelque chose qui semble plaire. Mais les virements viennent de grandes majors, de grandes sociétés, comme on l'a dit, de sociétés qui parfois ont été encouragées par le président Macron à percevoir des fonds de la Banque publique d'investissement, donc des fonds publics. Et qui verse de l'argent à ces sociétés-là. Donc nous, on a posé les questions, on a enquêté, on a demandé à chacune de ces sociétés de nous expliquer ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire la conformité avant d'effectuer des virements. On n'a pas eu de réponse. Pour revenir sur Gaston Bide, Franck Gaston Bide et sa série Validée, il a, dans une interview au Parisien, il a expliqué que la réalité de notre livre dépasse la fiction. Nous, on ne fait pas de la fiction. On est des journalistes et notre travail, c'est de faire de l'enquête et de réunir des faits.
Ah non, pas du tout.
Et donc, ce qu'on raconte, c'est vraiment des faits qui sont documentés, sourcés et recoupés.
Oui, j'entends bien, c'est juste que...
Malheureusement, c'est pas de la fiction.
Alors, on va continuer d'en parler, Joël, Bruno et Emmanuel, parce que si on a beaucoup parlé aussi du rap et des liaisons dangereuses, c'est à l'occasion de l'évasion de Mohamed Amra, aussi qu'on a pu recouper certaines choses. Et puis, il y a un acronyme qui est très présent dans le rap, c'est la BMF. Aussi, il faudra parler de ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on a parlé des liaisons dangereuses du rap au moment de l'évasion sanglante de Mohamed Amra, alors?
Parce que ça a mis au grand jour une organisation qui s'appelle la Black Manjak Family, la BMF, l'acronyme. Et très rapidement, les enquêteurs vont faire des liens entre la BMF et le rappeur Kobalade, un rappeur très connu et très célèbre. Et donc, ça va mettre au grand jour les ambitions de ce groupe, notamment dans le rap français, avec d'autres rappeurs aussi.
C'est-à-dire, pourquoi les ambitions? Qu'est-ce qu'ils font avec
ça? Ils vont faire de la protection, hein, c'est ce que racontent les policiers. Ils vont protéger aujourd'hui des rappeurs, ils vont participer. Il y en a qui vont être associés aussi avec Kobalade dans certaines structures.
Mais les protéger de quoi?
Bah alors c'est tout le sujet. Aujourd'hui, c'est vrai que les rappeurs, pour se déplacer rien que sur le territoire national, c'est devenu presque un défi pour certains. Certains ont des voitures leurs, certains sont contraints vraiment d'avoir des dispositifs presque clandestins pour pouvoir. Et donc évidemment que la sécurité, c'est avoir une équipe de sécurité capable de
pouvoir. Mais pourquoi vous protéger. Parce qu'ils sont menacés, ils peuvent craindre pour leur vie.
Sans faire de généralité, certains sont menacés. On l'a vu. Et c'est vrai que l'affaire SCH a été un avant, un après. Nous, ça faisait déjà un an et demi qu'on enquêtait sur le sujet, et ça a révélé au grand jour les mesures d'extorsion dont pouvait faire face de nombreux rappeurs.
Mais quels sont les liens, pardon, entre ces rappeurs et le monde de la drogue? Parce qu'on le voit aux États-Unis, il y a eu des affaires assez retentissantes. Est-ce qu'il y a la même chose en France?
Je pense qu'on peut pas faire de généralité.
Non, sans faire de généralité.
Où les rappeurs sont liés ou pas. Il y a vraiment chacun sa propre histoire, sa propre trajectoire. Et en fait, ce qui nous a beaucoup beaucoup intéressé en enquêtant sur le rap pendant plus de deux ans, c'est qu'en fait, c'est un livre d'époque, c'est un livre qui raconte une certaine France en fait. Donc oui, bien sûr qu'il y a une face sombre, évidemment qu'il y a, ouais, il y a des narcotrafics, mais ça tout le monde le sait. Il y a du trafic, etc. Oui.
Enfin, il n'y a pas les mêmes problèmes dans la musique baroque.
Non, certes. Mais il y en a d'autres, j'en suis certain. Ah, ouais. Et qu'en fait, ce livre, à travers le rap, le rap est une formidable porte d'entrée pour comprendre cette France d'aujourd'hui et de demain, en fait. Donc, à la fois les frustrations, les acteurs de l'illégal, les mauvaises influences, mais aussi les envies d'ailleurs, les envies de raconter une France aussi, de la chroniquer et de se projeter. C'est des enfants qui sont ultra mondialisés, qui vont voir ailleurs, qui voilà, la France peut sembler étriquée, notamment qu'on les a pas compris.
On vous a parlé facilement ou pas pour ce livre?
Non, très sincèrement, ça a été évidemment compliqué parce que c'est une industrie qui n'avait jamais été enquêtée, investiguée, qui avait un rapport au journalisme qui était plutôt celui de la promotion. En réalité, on l'a bien vu avec beaucoup d'acteurs des labels qui finalement, quand on fait pas jeu de la promotion, ne comprennent pas trop à quoi nous sommes utiles. Donc, il a fallu convaincre. Il y a aussi, je pense, et ça c'est important pour nous, des acteurs qui avaient besoin de parler parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui une emprise sur certains artistes est trop importante, s'inquiéter pour eux-mêmes, s'inquiéter aussi pour leur propre société, Joanne en parlait, que des virements avec des sociétés où le bénéficiaire final n'est pas clairement identifié, des virements qui sont en millions d'euros, inquiéter aussi ces acteurs-là, et donc eux avaient besoin de se libérer.
Mais moi, en vous lisant, j'ai l'impression qu'ils se méfient quand même de la police. C'est-à-dire que certes, le ministère de l'Intérieur regarde, il y a des enquêtes, mais qui préfèrent en fait régler ça entre eux plutôt que de faire appel aux services officiels, quoi, en fait.
Oui, il peut y avoir cette tentation-là qui est nourrie de leur expérience personnelle et encore une fois de trajectoire. C'est pas forcément toujours bien vu d'aller se tourner vers la police dans cet univers, mais comme dans beaucoup d'autres, en fait. Voilà, là-dessus, ils évoluent avec leurs propres normes, ils se sont constitués leur propre société, peut-être parfois parallèle, mais qui est aujourd'hui une contre-société qui est devenue, qui a ses propres repères, en fait.
Mais à tel point que vous parlez de narco-producteurs.
Oui, il y en a, il y a ce phénomène-là.
Ce
sont des narcotrafiquants qui sont sous mandat d'arrêt, le plus souvent recherchés par les autorités françaises. On parle de narcotrafic, mais on parle aussi de gens qui sont suspectés d'avoir fait tuer des gens. Donc c'est aussi des tueurs et qui, en fait, comme beaucoup beaucoup d'acteurs du monde illégal, criminel, rêvent d'avoir des flux financiers légaux, oui, de sociétés.
C'est une façon de blanchir leur argent.
Non, c'est pas du blanchiment, c'est de la captation de flux légaux. Blanchiment, ça veut dire qu'on réinjecte oui. de l'argent dans le... Là, on capte des flux légaux. Et là encore, ok, bien évidemment que les voyous sont à questionner, mais les émetteurs me semblent aussi intéressants à questionner. Et nous, c'est ce qu'on a fait, on n'a pas eu de réponse. Et c'est plus inquiétant de la part de multinationales, pour certaines cotées en bourse, qui ne sont pas capables d'expliquer leur circuit et leur processus de mise en conformité.
Joël Dagosséry.
Ce qu'il faut dire aussi, toujours dans mon entreprise, d'un peu positiver ce récit, c'est que sur les producteurs, par exemple, ou les tourneurs, enfin ceux qui organisent les tournées, etc., on a des gens qui sont extrêmement talentueux. Tout à l'heure, vous parliez justement de que ça raconte une certaine France. Moi, j'ai l'impression que ça raconte une France qui n'a pas su voir les talents, par exemple, dans nos quartiers. Des gens qui sont capables de prendre un artiste, de le faire monter, de créer, d'imaginer une stratégie marketing pour amener des flux financiers, etc. Pour moi, c'est des gens qu'on n'a pas su identifier, qu'on a laissé sur le bord du chemin. Donc ça, c'est important aussi de le dire, de dire que oui, effectivement, il y a des choses illégales, etc. Mais il y a vraiment, il y a vraiment des talents.
Enfin, c'est devenu la norme.
C'est quand même important de dire qu'effectivement, les gens sont un peu dans des trucs sous-marins, un peu clandestins, des trucs comme ça. Mais que c'est aussi, ça raconte aussi une France qui n'a jamais su mettre en place un système pour faire émerger des gens qui réellement, s'ils s'étaient éduqués correctement, s'ils avaient eu la chance aussi effectivement peut-être, mais ou alors blanc mais pas forcément de la ruralité, enfin je parle de classe sociale surtout aurait bah oui ça compte la classe sociale aurait pu faire quelque chose de légal mais de très grand. Mais ça, c'est juste une remarque. S'il vous plaît, je vais aller sur une question. Il y a un chapitre qui m'a énormément intéressé. C'est les diplomates, je crois. Voilà, exactement. Donc là où on parle d'Afrique, effectivement, et de Gims. Ouais. Gims, d'ailleurs, que vous mettez dans les rappeurs, mais moi, pour moi, c'est pas un rappeur. Ça l'a été au début, effectivement, mais il fait plus de rap depuis assez longtemps. C'est un chanteur de variété. On va plus dire ça comme ça. Je vous ai écouté, alors pas dans le livre, mais je vous ai écouté dans vos différentes interviews et vous avez décrit cette capacité à aller voir ailleurs, à s'émanciper, comme une sorte de déception par rapport à la France. Alors je suis pas tellement d'accord avec vous, il y a certainement une déception, mais je trouve que c'est un regard, je sais pas ce que vous allez me dire, mais un peu passé de l'Afrique, parce qu'en réalité c'est un vrai marché, c'est devenu un vrai marché, aujourd'hui c'est des streams. C'est plus le pouvoir d'achat pour acheter un CD, c'est des streams. Les streams, c'est partout. C'est gratuit d'aller écouter de la musique aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas décrit ça comme un réel marché, vraiment comme quand on va chercher des parts de marché ailleurs, et plutôt comme quelque chose d'un peu déception de la France? Oui, bah excusez-moi, le livre est intéressant, et on parle de rave, on parle de quartier, donc pardon de...
Non, mais c'est ce qu'on raconte. L'Afrique, c'est un marché pour eux. Gims, d'ailleurs, cette boulimie du pouvoir qu'il a, c'est pour ouvrir des nouveaux marchés, à la fois des marchés pour sa diversification. Il a beaucoup investi au Maroc, il a un très grand projet immobilier, il a discuté d'opportunités de business aussi en Côte d'Ivoire. C'est pareil pour beaucoup d'autres rappeurs qui ont exploré l'Afrique bien avant d'autres. En fait, ils ont métissé leur musique avec l'afropop, avec Davido, Burna Boy. Donc, c'est des vrais explorateurs. Et c'est vrai que l'Afrique, c'est plus qu'un marché pour eux. C'est aujourd'hui devenu une partie de leur empire.
Attendez, vous allez plus loin. C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui pour ces rappeurs que vous appelez les afro-descendants et qui sont nés en France, vous dites en fait ils vont obtenir en Afrique ce qu'ils n'auront jamais quasiment en France, c'est-à-dire un palais, la richesse, le faste, sans qu'on les juge et sans qu'on les regarde.
La reconnaissance surtout, moi.
Ils ont été méprisés, on va le dire franchement, par les élites françaises, notamment politiques. Et c'est marrant de voir comment les politiques courent après les rappeurs avec presque 10 ans de retard. Les rappeurs ont plus besoin des politiques, ils n'ont jamais eu vraiment besoin d'eux. Mais on voit que les aînés, vous parliez de Kerry James en introduction, il a essayé un compagnonnage politique avec des figures comme François Hollande avec le PS, et que le PS a réellement déçu quasiment tous les rappeurs qui s'étaient engagés. Et on voit bien que plus aucun rappeur s'engage dans les campagnes électorales aujourd'hui.
Mais vous l'avez bien vu, en fait, quand Jules il est à Marseille, il veut absolument rencontrer personne. Et ça, je trouve ça vraiment à la hauteur du personnage. En fait, Jules, moi, il est intrigant, tout son parcours est intrigant, mais surtout, c'est quelqu'un qui pond 2 à 3 albums par an, qui marche tout le temps et qui, en fait, reste toujours dans sa ligne. Le mec, il vient toujours en claquette chaussette, il dit qu'il arrive en Twingo, enfin, ça reste quelqu'un. Et on voit pas de trucs de Jules, genre, on voit pas rouler dans une BM, enfin, on sait qu'il a une BM, parce que des, enfin, une Mercedes, je crois. Mais on le voit de temps en temps, mais en fait, on voit, parce qu'il s'est fait gauler, je crois, en vitesse. Mais en fait, c'est assez drôle. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est SCH. Parce qu'en fait, SCH, au-delà d'avoir été menacé et d'avoir quelqu'un de ses amis qui est mort, c'est qu'SCH, en fait, il joue au bandit. il veut jouer à la racaille, mais sauf qu'en fait, c'en est pas une, et qu'il est rattrapé par cette image-là. Alors qu'aux États-Unis, les mecs, c'était des racailles qui faisaient du rap. Lui, SCH, c'est le mec qui a dit, bah, tiens, le filon de faire un peu le mafiosi italien. Bah, sauf qu'il a été rattrapé par des mecs qui l'ont fait comprendre que c'est pas ça, la mafia.
Et est-ce qu'il y a des liens entre le rap et l'islamisme?
Non, aucunement, non, il n'y en a pas. Et nous, dans notre enquête, il n'y en a pas du tout. Certains, chacun pratique son culte comme exactement. Il l'entend.
Merci de nous avoir expliqué ce livre. Merci, intéressant. L'Empire, enquête au cœur du rap français aux éditions Flammarion dans la catégorie enquête. Merci à tous les deux d'être venus, Paul Deutschmann, Simon Piel et Johan Toulin sont les trois auteurs. C'est Paul et Johan qui étaient avec nous.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
Cette allocation sociale unique, c'est le seul moment dans lequel je pense aussi qu'on est capable de réconcilier beaucoup de gens qui ont une sensibilité politique différente, parce que tout simplement c'est du bon sens et c'est ce qui repart du terrain. En tout cas, cette aventure de l'allocation sociale unique va faire l'objet d'un projet de loi rapide, puisqu'il sera déposé au Conseil des ministres au mois de décembre, et qu'il devra nous permettre, avec l'Assemblée des départements de France, Monsieur le Président, d'imaginer justement la suite du parcours et de réflexion autour de l'accompagnement en proximité.
Voilà, c'est le bon sens pour le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, fusionner décidément l'ensemble des aides sociales.
C'est un vieux projet, même Emmanuel Macron en avait parlé lors de ses campagnes présidentielles. La droite défend l'idée de regrouper plusieurs dépenses sociales. Alors la prime d'activité, le RSA, qui est géré par les départements, et plusieurs aides au logement au sein d'un seul versement, donc une allocation sociale unique, pour rendre des prestations sociales plus lisibles, plus accessibles. Peut-être aussi même faire des économies, ça c'est moins sûr, parce que ça a été essayé dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, et c'était une usine à gaz en fait, ça coûtait plus cher que finalement le système actuel. Donc il faut se méfier, parce qu'en France en général, on est assez championne du monde, la France championne du monde de la bureaucratie. Certains disent il faudrait limiter le montant à 100% du SMIC.
Ce qui, ça 70% même, j'ai vu.
Au début ça serait 100% et après on pourrait baisser. Et c'est là où il y aura forcément un affrontement politique entre ceux qui pensent qu'on donne trop de prestations sociales et d'autres qui disent qu'au contraire, il faudrait continuer à en donner plus. Je rappelle que la France se situe en tête des dépenses sociales en Europe avec plus de 32% du PIB. C'est 849 milliards d'euros de prestations sociales qui sont versées chaque année aux Français. Alors, est-ce que c'est une bonne idée?
Qu'en dites-vous, Charles?
Je ne sais pas. Je pense que les APL, par exemple, pour moi, devraient être purement et simplement supprimées. Je pense que ça n'a aucun effet si ce n'est de faire augmenter les loyers, puisqu'évidemment les propriétaires se calent sur les aides et fixent des loyers qui sont plus élevés que s'il n'y avait pas d'APL. Il y a 4,5 millions de personnes en France, sur 67 millions c'est beaucoup, qui vivent du RSA. Il faut peut-être se poser quand même la question de l'efficacité de notre système. Donc, les regrouper en une allocation unique ou pas, je ne sais pas si c'est tellement le sujet. Pourquoi pas ? J'ai pas de religion sur le sujet. Je pense surtout que il faut permettre aux gens de travailler. Et le problème en France, c'est que quasiment, ça devient difficile de travailler. C'est-à-dire que le travail coûte tellement cher, c'est tellement cher de faire un contrat à quelqu'un pour le faire travailler, même à temps partiel, même pour un petit boulot, etc., qu'il y a tout un tas d'emplois qui n'existent pas en France, qui existent dans d'autres pays, et on voit comme ça les villages se désertifier, les services se raréfier, on déplore le manque d'humains, de présence humaine dans plein d'endroits, on installe des distributeurs automatiques de nourriture dans les villages, on se dit ah c'est terrible, il y a encore eu une agression sur le quai du RER, etc. Mais comme on peut pas recruter les gens, parce que quand vous recrutez quelqu'un, vous devez lui verser 2,5 fois son salaire pour payer précisément ce système qui se mord la queue, eh bien, il y a des gens qu'on laisse au RSA ou à d'autres allocations alors qu'ils pourraient travailler.
Donc moi, ça veut dire que l'objectif pour toi, c'est de réduire et pas forcément l'allocation unique.
En tout cas, moi, je pense que la priorité, c'est de permettre de nouveau de faire travailler les gens en France, et ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on a l'impression que l'administration est là pour empêcher le travail.
Flora ?
Moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il faille supprimer les APL, sachant qu'il y a un étudiant. Les APL, c'est des aides au logement beaucoup versées aux étudiants. Il y a un étudiant sur trois qui ne mange pas à sa faim. Un sur trois. De quoi on parle en France aujourd'hui? Pour faire des études, il y a un. Enfin, on parle de Français qui ne mangent pas à leur faim. Donc
aussi,
non,
il y a trop d'étudiants.
Il faut pas. Oui, bah, il faut pas supprimer. Ça, en revanche, je pense que le guichet unique, en fait, tout ce qui va dans le sens de la simplification de l'État est une bonne mesure. Pourquoi ? Parce que déjà aujourd'hui, on sait, moi j'ai pas les mêmes chiffres que Charles, il y a que 65% des ayants droit au RSA qui touchent le RSA. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, bon, qui ont honte, qui ont pas envie de solliciter l'argent public, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à faire les démarches administratives parce qu'elles sont trop compliquées. Donc aujourd'hui, on a un gros problème en France qui est que on a des services publics, mais les gens le perçoivent même pas toujours parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. C'est quand même dommage. Donc tout ce qui va dans le sens de la simplification est une bonne idée. Et donc avoir un site internet qui s'appellerait aide sociale, voilà.
Oh là là.
Et dedans, on vous dit vous êtes étudiant, retraité, sans emploi. Blablabla, vous avez le droit, vous avez pas le droit. Enfin, je comprends pas à l'ère de l'IA que on n'ait pas des services publics digitaux qui fonctionnent.
Monsieur Jean-Loup Bonamy.
Alors, j'ai juste une petite parenthèse. Déjà, je ne supporte plus, et je pense que je ne suis pas le seul, le jargon technocratique du sieur Le Cornu. Là, dans ce qu'on vient d'entendre, les derniers mots de l'extrait qu'on a entendu, c'était en proximité.
Oui.
Mais qui dit ça? Qui dit ça dans la vraie vie?
C'est dingue,
qui
insupportable.
Dit
en responsabilité,
on va faire un bouger.
On va faire un bouger.
En proximité. Donc déjà,
juguler.
En plus, il pense qu'il est proche des gens parce qu'il dit le mot proximité, mais en fait il le dit avec une telle formule.
Et en proximité des gens.
Voilà, en proximité des gens, qu'il est complètement déconnecté. Donc Sébastien, vire tes conseillers en com, prends-moi à la place, je te coûterai moins cher et je te donnerai des conseils qui seront plus de bon sens. Bon, ensuite, concernant.
En proximité, ça se flingue, moi ça me déprime.
Alors en proximité.
Le tout dit avec un.
Olivier,
une envie,
ah ouais, non mais.
Voilà. En même temps, il fait de la politique depuis le début, depuis qu'il est quasiment né, Sébastien Le Cornu, oui, donc. Il vit dans ce jargon depuis toujours. Vas-y alors.
Alors et enfin, je pense que j'étais tout à fait d'accord et avec Charles et avec Flora, c'est-à-dire que je pense qu'on vit dans un véritable maquis d'allocations complètement illisibles et donc il faut les fusionner pour simplifier, pour clarifier et également justement pour que ce soit plus lisible.
Oui, mais après, il y a des gens qui ont le droit aux APL, mais qui n'ont pas le droit au RSA,
bien sûr,
par exemple.
Et,
c'est ça que je comprends
pas. Et faire des économies sur les frais de gestion.
Si tu as le droit à 200 balles d'APL, on va pas te donner 800 balles parce qu'on fait une allocation unique.
Non, mais tu auras le droit à 200 balles de l'allocation unique.
Et pour faire des économies de frais de gestion avec le principe du guichet unique. Enfin, c'est qu'en effet, on vit dans un pays qui décourage le travail parce qu'il y a trop de redistribution. La France, c'est 1% de la population mondiale et ça distribue 15% des aides sociales qui sont distribuées dans le monde sont distribuées par la France. 1% de la population mondiale, 15% des aides sociales mondiales.
On est malheureux.
Et on est champion du monde. Et
on est dans un enfer ultra-libéral.
Comme, les champions du monde de la
comme l'a dit Charles, ça décourage le travail et à la fois les gens qui travaillent ne sont pas contents parce qu'ils ne gagnent pas assez et ils ne voient pas vraiment l'écart entre eux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Hein, ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et puis ceux qui ne travaillent pas, y en a beaucoup qui se disent pourquoi j'irai travailler.
Mais toutes les aides sociales en une, pour ou contre, bonne idée ou pas? Oui, bonne idée à quasiment 70%.
Il n'a pas envie de voir arriver au pouvoir l'une des parties extrêmes de notre pays. Ce n'est pas la seule d'ailleurs, il y en a d'autres. Dans l'autre bord politique, c'est comme ça. Il a balancé ça comme ça. On a des convictions, on a le droit de les exprimer comme on veut. Chacun enterre ses morts comme il veut.
Voilà, il a ses convictions, il a le droit de les exprimer. Alain Souchon, c'était la semaine dernière chez nos confrères d'RTL, quand il a dit « Je pense pas que les Français soient assez cons pour voter Rassemblement National ». Et puis vous savez, à la mode Souchon, avec la voix qui traîne, il a ajouté « si jamais ça se passe, moi je pars en Suisse », etc. Une très très bonne imitation d'Alain Souchon. Moi-même, en m'écoutant, je me suis dit « Tiens, je suis Alain Souchon ».
Et on m'a dit que pendant les vacances de fin d'année, tu pourrais remplacer Nicolas Canteloup.
Un petit spectacle, d'ailleurs.
Nicolas Canteloup à sa place quand il partira en vacances. Mais bien sûr qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, Alain Souchon, Pierre Arditi aussi, c'est la liberté d'expression, elle s'applique à tout le monde, sinon elle n'existe pas. Le problème, c'est que ça fait quand même
30 ans que les artistes se mobilisent contre, avant, le Front National et le RN. Ça fait 30 ans qu'on entend Alain Souchon et les autres dire le RN, c'est pas bien, etc. Je me souviens qu'Edith Noah avait dit, si le Pen passe, je pars, je quitte la France. Vous vous souvenez, je crois que c'était en 2007, de mémoire. Bref, c'est pas nouveau. Est-ce efficace? Parce que depuis 30 ans, le FN et maintenant le RN ne cessent de progresser. Et maintenant, il est aux portes du pouvoir. Donc moi, je pense que si les artistes veulent lutter contre le RN, il faut, à mon avis, plutôt fermer sa gueule. Parce que plus ils parlent, plus je pense qu'ils alimentent le discours anti-système porté par justement le RN en disant, vous voyez, toutes ces élites, elles pensent la même chose. C'est les bien-pensants. Et nous, on est dans la vraie vie avec les vrais problèmes. Voilà. Donc c'est plutôt l'efficacité de ces propos qu'il faut remettre en cause.
Je suis bien d'accord avec toi. À chaque fois que un mec vu comme de l'élite culturelle ou autre tient ce genre de propos, il renforce le socle RN. Ce qui me choque plus encore, moi, c'est le côté méprisant. Les Français sont pas assez cons. Genre lui, il est plus intelligent que tout le monde. Et surtout pour dire, je partirai en Suisse.
T'as vu que ses fils ont dit que c'était finalement sur le ton de la plaisanterie. D'ailleurs, tout le monde avait rigolé en studio.
Bon, moi, je trouve pas ça.
Qu'il est chanteur, je trouve
pas ça très drôle. Mais là où je veux en venir surtout, c'est le côté double standard. Oui, il a le droit de dire ce qu'il pense, bien évidemment. Mais si un artiste devait dire que lui, il espère la victoire du RN, vous imaginez le scandale. Oui. Et donc, en réalité, les artistes ont le droit de dire ce qu'ils pensent risque, c'est ce quand ils sont de gauche. Oui, et ils ont le droit de le dire quand ils sont de gauche. Et je me souviens d'une ou deux personnalités, ou même des petites personnalités dont on a vu qu'ils avaient mis un like sur un post de Jordan Bardella et ça déclenche un
Lucas
truc.
Lucas Chevalier, gardien de but.
Voilà,
il a dit qu'il avait ripé, que c'était
trompé. Voilà. Donc, vous voyez, le double standard. On a le droit de donner son avis quand on est artiste ou star, quand on est de gauche, et on devrait surtout pas dire quand on soutient le RN.
Bon. Mais surtout cette gauche bien pensante qui a la main sur le cœur, qui aime en plus nous caresser dans le sens du poil, les Noirs et les Arabes, on a un bon troupeau homogène pour eux. Ils oublient une chose, c'est que si le Rassemblement National est aussi fort, faudrait peut-être qu'ils remercient François Mitterrand, qui est leur maître à penser. Qui est-ce qui remet Jean-Marie Le Pen dans le game en 1986, dans une proportionnelle de circonstances, pour faire monter l'extrême droite, pour faire peur, pour pouvoir gagner facilement en 1988? Jean-Marie Le Pen n'avait plus été député depuis 1962. François Mitterrand appelait les patrons de médias pour dire, il faut le faire passer. Ils oublient tout ça. Qui est-ce qui cache toutes les problématiques à force de dire, ça va faire le jeu de l'extrême droite, alors que la réalité, c'est que nous devons en parler. Maintenant, plus on insulte les électeurs, c'est du mépris, c'est gratuit, ça sert à rien, ben plus ça va les renforcer justement. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc ils devraient peut-être un petit peu travailler leurs arguments plutôt que de tomber dans cette facilité.
Mais souviens-toi, même en 2007, certains artistes qui s'étaient risqués à monter sur la tribune avec Nicolas
Sarkozy. Ouais, ils ont été blacklistés derrière, Faudel, Miss Dominique, tout ça.
Ils s'étaient fait vilipender, critiquer.
C'est en plus c'est ça, c'est que ça sonne creux. Moi qu'on critique quelqu'un sur le fond, ok, mais là c'est toujours pareil, c'est un parti de raciste, c'est un parti de nazi, c'est ceci, c'est cela. Et moi j'aime à toujours rappeler que De Gaulle dans son parti, il y avait des gens qui étaient au régime de Vichy. Donc c'est pas des vrais sujets. Maintenant ce qu'il faut se poser la question, c'est pourquoi le RN fait autant d'électeurs. À qui il parle? Il parle à la classe ouvrière, il parle aux gens qui travaillent.
Et pourquoi il y a autant de gens de gauche qui basculent vers le RN?
C'est ça. Donc, je veux dire, c'est tellement facile de mépriser quand on est tranquille dans son petit château à palper des royalties toute sa vie.
C'est
gauche caviar.
Je lui reproche sa réussite.
Non, je lui reproche pas sa réussite.
Et cette gauche caviar qui fait semblant que le racisme n'existe pas.
C'est ça, moi, c'est ça qui me terrorise. Moi, j'aimerais plutôt entendre plutôt que de dire méchant le RN, qu'on vienne dire, moi, je veux qu'il y ait un président qui aide les gens foncièrement, que les territoires deviennent égaux en France. J'en ai marre d'entendre des clivages permanents. Parce que là, au final, les gens sont pas assez cons pour voter le RN, pardon, je vais dire un gros mot, mais connard, qui c'est qui écoute tes chansons?
Oui, il doit y
mais
avoir
surtout,
des cons
Alain
qui
Souchon,
chansons,
qui c'est qui écoute tes chansons? Donc, c'est voilà, c'est comme d'habitude, on méprise. Moi, je veux dire, je le dis haut et fort, je suis contre LFI. Je ne me permettrai jamais de dire à une personne qui vote LFI, t'es con. Jamais. Parce que s'il le fait, c'est qu'il a ses raisons. Maintenant, que je ouais. contredise et que je méprise un parti, je ne maîtrise pas ses électeurs. C'est qu'ils ont des auditeurs.
On a Patrick qui veut intervenir dans la discussion. Il nous appelle du département de l'Essonne. Bonjour Patrick.
Bonjour à tous.
Et bienvenue Patrick. Je rappelle, vous êtes formateur. C'est votre première au 32-16. Donc je vous en prie. Est-ce que vous pensez que les artistes doivent s'immiscer dans le débat ou pas? Dites-nous.
Moi, je veux bien. Moi, je suis pour qu'on puisse, comme vous, en fait, donner son avis. Mais j'aimerais qu'on donne son avis, en fait, tout le temps. Je trouve que l'artiste, il est toujours dans un côté très communautaire. Il va donner son avis, mais souvent pour le RN. Sauf qu'on les entend pas tout le reste de l'année. On les entend pas quand le Français a un souci de faire, de remplir son frigo. On l'entend pas quand il a un souci de chauffage ou autre. Mais par contre, quand il faut dire le Rassemblement National, c'est mauvais, et ben là, en fait, ils sont... Alors, j'allais dire tous là, mais pas forcément, mais il y en a beaucoup qui sont là. Et je trouve que, voilà, c'est juste pour se donner un bon côté. Il y a quelqu'un de chez vous qui... j'ai oublié ce qu'il avait dit, là, concernant... bon, c'est pas grave, je vais pas revenir dessus, mais...
Le soja.
Mitterrand. Mitterrand et Le Pen, ou non, c'est ça, non,
ouais,
dis-toi.
Non, je sais plus, il y avait un truc que je trouvais assez... Ça va peut-être revenir après, c'est pas grave. Mais ouais, je trouve que sur les artistes, c'est dommage, parce que on a une prise de parole, je trouve, tellement facile sur le RN. Oui, de dire que, voilà, j'ai retrouvé, de dire que à chaque fois qu'on critique le RN, je trouve qu'on fait une bonne pub pour le RN. Bah, parce que, vous voyez, même moi, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quand même bizarre que tout le monde dise, ah, le RN, c'est les méchants, le RN, c'est les méchants. Mais le seul argument, c'est de dire, le RN, c'est les méchants, c'est les nazis. Mais c'est bizarre, je trouve ça bizarre que tout le monde utilise la même stratégie. Et par contre, de dire que voilà, Macron fait ci, ou les politiques.
Macron est critiqué aussi. Alors peut-être pas par les artistes, mais.
Et pas pour le fond.
Mais pas par les artistes. Mais les artistes, je trouve pas qu'ils critiquent.
Non, ça c'est vrai.
En fait, c'est que soit on en parle, soit on parle de la politique, tout le monde peut en parler, soit en fait, on ne choisit pas ces sujets juste pour être bien vu.
Alors, Patrick, justement, on va voir, mon cher Patrick, ce qu'en pensent ceux qui ont suivi la discussion. Encore une fois, c'est pas un sondage, c'est juste une humeur, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les artistes doivent dire leurs convictions politiques? Est-ce qu'ils doivent se mêler du débat, oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder ça. Est-ce qu'ils doivent s'en mêler? Alors, les artistes ont le droit d'exprimer leurs convictions comme ils le veulent, d'accord ou pas avec Pierre Arditi? Pas du tout d'accord, à 60%.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules. 3, 4.
C'est un sujet qui revient régulièrement, puisque les fast-food, c'est la vie quotidienne des Français. C'est la restauration rapide, c'est la restauration pas chère. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a pris le pas sur la restauration dite classique. Et justement, elle est toujours pointée du doigt, et pointée du doigt par les députés, parce que ça reste la malbouffe et donc l'obésité. Et là, comment on combat en France? On combat avec la taxe.
Alors, ce ne sont pas n'importe quels députés, là, ce sont des députés écologistes qui veulent barrer la route aux restaurants de fast-food, qui trouvent qu'il y a trop de McDo, de Burger King, d'Otacos, et ils pensent que, grâce à la taxe, ils vont enrayer ce phénomène. C'est vrai que le nombre de restaurants de fast-food a fortement augmenté en France depuis 10 ans, et ils inventent une taxe, c'est un amendement au budget 2026, une taxe de 50 000 euros au fast-food, voire 100 000 euros s'ils s'installent, ces fast-food, à moins de 300 mètres d'une école. Donc, selon le texte, il y a une taxe unique de 50 000 euros pour tous les établissements qui ouvrent, et 100 000 euros donc pour ceux qui seront près des écoles. Est-ce que c'est la meilleure façon de lutter contre les fast-food? D'ailleurs, est-ce qu'il faut le faire?
Si vous osez critiquer le fait qu'on taxe les fast-food en refusant que les députés aient un week-end, parce qu'on ne les paye pas pour rien foutre, alors qu'ils ont des choses à faire, alors honte à vous. Vraiment honte à vous. Les caisses sont vides. Vous savez ce que c'est, ça?
Ça,
c'est la première drogue. C'est marrant parce que, je vous raconte ma vie, une seconde. Ne me mettez pas une alerte tunnel tout de suite. J'ai eu un lycée en bas de chez moi. Peu importe. Les jeunes du lycée, ils sont tout le temps au Franprix en train d'acheter des bonbons, des gâteaux. Il n'y a pas de problème, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils ont 15, 16 ans. Voilà, c'est leur. Et je me dis, c'est vraiment la première drogue à laquelle on a accès aujourd'hui. Avant de pouvoir boire, fumer, se droguer, que sais-je, en fait, on mange des Haribo et on va au McDo. Alors, bien sûr que le McDo, je dis pas qu'il faut être stalinien en la matière. On a le droit de temps en temps de manger des fast-food parce que c'est bon et que c'est pas cher. En revanche, il faut comprendre que le sucre tue. Le sucre est une addiction, une addiction très forte. Le sucre tue.
Vivre tue aussi.
Et le sucre tue et ces fast-food là ne respectent pas souvent nos normes environnementales, sociales, etc. Qu'est-ce qu'il y a de plus logique que je comprends même pas qu'il y ait un débat. Qu'est-ce qu'il y a de au moment où les caisses sont vides, qu'est-ce qu'il y a de plus logique que de taxer les fast-food?
Alors, Jean-Loup et Mourad.
C'est une taxe morale. C'est-à-dire qu'on a inventé un nouveau concept. On fait des taxes morales, à savoir, on veut racketter des gens. Alors, donc, un coup, on va dire, sur l'alcool, parce que ça tue. Après, sur les McDo, parce que c'est pas bien, ça fait grossir, ça tue. Et on nous a inventé plein de taxes, très belle sur la cigarette aussi. De plein de taxes, mais on y met de la moralité, ou alors on y met de l'écologie. Ça permet de créer des taxes, mais en disant, non, c'est pas une taxe. C'est pas une taxe. C'est pour la morale, c'est pour votre bien-être. Voilà. Alors, moi, je vous dis un truc. Pour moi, bien-être, si vous me taxez pas, il sera encore meilleur, mon bien-être. Je vous le dis. Donc, j'ai pas besoin de taxes. Pour mon bien-être, tout va bien si je suis pas taxé.
Et pour les gamins et la malbouffe?
Mais, à 300 mètres, le mec, il va l'installer à 301. Voilà, à un mètre près, oui, puis c'est réglé.
On croira parce qu'il est à 305 mètres, ça changera
je suis en effet toujours un peu surpris. J'ai l'impression que c'est le concours l'épine de la taxe permanente. Il y a une inventivité fiscale. Et d'ailleurs, c'est un peu surprenant parce qu'on voit un pays qui est incapable de se défendre face à la concurrence déloyale de certains pays étrangers, de la Chine par exemple, en mettant des droits de douane comme le font les États-Unis, en mettant des taxes aux frontières. Ça, on ne peut pas taxer les produits de mauvaise qualité.
On n'a pas notre souveraineté.
Voilà, puisqu'on n'a plus de souveraineté. Des produits de mauvaise qualité, produits dans des conditions déplorables. J'ai même vu que des fois, pour certains produits sur Chine, on exploitait des Ouïghours dans des camps de prisonniers. Enfin, des choses atroces. Et que vraiment le dumping fiscal, environnemental, social maximal, ça on ne peut pas taxer. Par contre, des choses qui sont chez nous, sur notre territoire, qui créent de l'activité et de l'emploi chez nous.
Parce que ce sont des franchisés.
Alors ça, il faut taxer. Hein. Taxe.
Ce sont des petites
taxes rage. Et
mais on est face à un fléau aussi qui est celui de l'obésité.
Alors interdit, pas de McDo. Alors interdit la cigarette
sur le montant.
Est interdit l'alcool. Est interdit
moi, le McDo. Voilà, sur le montant de 100 000 euros, je suis un petit rapprochement avec autre chose. 100 000 euros, c'est beaucoup. Tu te rends compte qu'il faudrait taxer 5 fast-food à 100 000 euros pour avoir les 500 000 euros qu'a coûté la nouvelle cuisine de la directrice du Louvre, puisqu'on avait appris qu'elle s'était fait construire une nouvelle cuisine. Ah, on y mange mieux que dans un fast-food, ça c'est sûr. Elle s'était fait construire une cuisine à 500 000 euros. Donc en fait, il faut 5 taxes à 100 000 euros.
C'est plus difficile de faire bouillonner un McDo que le Louvre.
C'est plus difficile
ça a peu de chances de passer parce que, semble-t-il, il y a une rupture d'égalité devant l'impôt. On peut pas taxer tel restaurant et pas taxer l'autre. Donc, à mon avis, ça ne passera pas. Mais moi, je trouve que ça serait plus intéressant de se poser la question. C'est pourquoi ça marche si bien en France? Parce que la France est l'un des pays où, effectivement,
il y a le plus de McDo
et ça cartonne. Pourquoi c'est en train de remplacer la restauration traditionnelle? Et pourquoi, effectivement, c'est un vrai phénomène de fond?
Alors, je vais te dire.
Et moi, je pense que la taxe n'a jamais réglé, les problèmes de fond de société.
Pourquoi la cocaïne, ça marche mieux que la tisane? Parce que, en fait, le McDo, les fast-food, c'est bourré de sucre et donc c'est addictif.
Ah, c'est addictif, oui.
Je vais vous dire, rien que, regardez ceux qui nous voient à la télé, regardez les images. Je suis sûre que ça vous donne envie et que ça vous donne faim. C'est presque l'heure de déjeuner.
Alors, quand on regarde quand ça nous donne faim. Il faut taxer.
Donc, en fait, entre la publicité.
Entre
la quantité de
Taxons.
Entre la quantité de sucre, les prix attractifs, parce que vous savez que McDo, c'est pas un business de la restauration, c'est un business de l'immobilier. C'est pas sur le burger à l'unité qu'ils gagnent de l'argent. Oui. C'est sur le fait qu'ils sont partout. Mais, non mais une brasserie
Flora,
peut pas concurrencer.
Tu n'as pas répondu à ma question.
Je
pense que la taxe ne changera rien. Pourquoi va-t-on dans ces restos? C'est ça la vraie question.
Parce que c'est pas très cher.
Parce qu'il y a une concurrence déloyale entre le McDo qui utilise du sucre à outrance, des économies d'échelle qui fait qu'il peut vendre pas cher, etc. Et la brasserie du coin qui, même si elle est bien intentionnée, qu'elle veut faire de la bonne bouffe pour ses clients, ça s'appelle de la concurrence déloyale.
Olivier qui veut intervenir dans la discussion, qui est un ancien de la restauration. Bonjour Olivier.
Bonjour, salut l'équipe, salut GG.
Qu'est-ce que vous en dites?
J'en dis que oui, moi je suis d'accord, taxons les fast-food, taxons la mauvaise bouffe, sauf que si on taxe la mauvaise bouffe, on va taxer 95% des restaurateurs qui fabriquent pas leur cuisine.
Ouais. Il faudrait plutôt refaire les mers, retirer les taxes à ceux qui utilisent des produits français de qualité.
Allez-y. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Ils achètent à l'industrie agroalimentaire qui vit de mettre du sucre et du gras dans la nourriture et des additifs pour que ça se tienne. Et donc, c'est des McDo, c'est déguisé. Ouais, c'est...
Je vais prendre un autre exemple. La taxe soda, ça existe? Est-ce que vous croyez que on boit moins de soda qu'avant?
Non, pas du tout. Non.
Voilà. Bon, donc c'est ça. C'est les, je comprends, Flora, ce que tu nous racontes, mais la taxe ne démontre pas. Enfin, essaie de moi de montrer qu'en taxant
McDo,
tu vas
résoudre le problème. Les gens comme toi, ils disaient aussi que taxer les paquets de cigarettes, ça servait à rien. Et puis à un moment, on se rend compte que le nombre de consommateurs baisse. En fait,
parce qu'ils achètent à l'étranger.
Mais en fait, la taxe du tabac, à minima, elle sert à renflouer les caisses. Je préfère qu'on se renfloue sur du tabac que sur les impôts des honnêtes gens qui gagnent un smic.
Oui, mais là au moins, hein, ce qu'il y a, voilà, c'est qu'il faut que
ça... Non, mais en fait, qui peut dire non à ça? Vous préférez qu'on taxe le McDo ou Madame Michu à 1450 euros par mois?
C'est la dictature du mourir en bonne santé que tu peux dire.
Allez-y, Olivier.
Si on taxe la malbouffe, on va taxer les restaurateurs.
Olivier, les restaurateurs qui cuisinent pas maison doivent pas payer moins cher que ceux qui cuisinent maison.
Il faut les aider à concurrencer les autres.
Parce qu'il y a la taxe et il y a la détaxe. Moi, il y a une mesure que je défends depuis longtemps.
Manigold a raison.
Moi, il y a une
mesure. Oui, le fait maison.
Attendez, il y a
voilà, il est récompensé en même temps.
Voilà, il y a la taxe. Olivier, vous avez raison, il y a la taxe et il y a la détaxe. Les gens qui achètent circuit court, qui achètent bio, qui cuisinent local, qui cuisinent maison, ils doivent pas payer les mêmes impôts que les gens qui achètent du métro, produits en Ukraine, plein d'antibiotiques.
Surtout
ça, c'est évident.
On parlait du Mercosur, on voit importer des produits.
Après le poulet ukrainien.
Voilà.
Et je pense que ça, alors, rare sujet qui peut nous mettre tous d'accord au GG autour de cette table, mais aussi les Didier Giraud et compagnie.
Et merci Olivier d'avoir été avec nous. Alors 50 000 euros de taxes à l'ouverture d'un fast-food, 100 000 s'il s'installe à côté d'une école ou à proximité d'une école. Est-ce que vous pensez
que c'est
une bonne
idée? 1 million s'il s'installe dans l'école.
Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Non, vous dites non à la taxe.
On en a marre des taxes.
À plus de 75%. Voilà pour cette nouvelle émission Best Of. En attendant de se retrouver en direct le 10 août prochain,
passez un très bon été sur RMC.
RMC, 9h midi, le meilleur des grandes gueules.